grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa maqaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne biro
halud maundi
chenne biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 5 août 2014. Bienvenue à cette nouvelle édition du Grand Dialogue qui tente de faire un premier bilan de la campagne agricole en cours. Nous vous proposons tout d'abord de faire l'état des lieux de l'agriculture et des projets agricoles au Mali. Ensuite, le bilan à mi-parcours de la campagne agricole 2014 et réfléchir sur les perspectives 2014 de cette même campagne agricole. Nos invités, Aboubacar Gakou, producteur agricole, Madame Koulibaly Salimata Sidibé du projet Maïmouna. Madame Koulibaly Maïmouna Sidibé du projet Faso Kaba, Idrissa Diallo de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui est en cours de route et enfin Demba Diallo, chef du bureau statistique suivi évaluation à la Direction nationale de l'agriculture. Merci à vous messieurs, merci madame pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Le gouvernement a décidé cette année d'allouer 15% du budget national à l'agriculture, tandis que le sac d'engrais de 50 kg sera cédé aux paysans au prix subventionné de 11 000 francs CFA partout au Mali. Le plan de campagne présenté par les autorités cette année prévoit une production céréalière de plus de 7 millions de tonnes, toutes spéculations confondues, dont 2 millions de tonnes de riz padi. Les prévisions de production de mil, de maïs et de sorgho sont respectivement de 1 700 000 à 1 200 tonnes. L'excédent céréalier prévisible commercialisable est estimé à plus de 7 700 tonnes, dont 327 000 tonnes de riz, 17% donc, et 1 500 000, beaucoup de chiffres, de tonnes de céréales sèches, soit 83%. Alors, la campagne agricole en cours est-elle en bonne voie, M. Diallo, Demba Diallo de la Direction nationale de l'agriculture?
Merci, M. Sidibé. Permettez-moi tout d'abord de remercier la radio Tamani pour avoir vraiment l'initiative d'organiser une telle rencontre qui est vraiment d'importance capitale pour toute la nation malienne. Parce qu'en parlant de la culture, vraiment on parle un pan très important de l'économie malienne qui touche vraiment toute la population. Donc permettez-moi également de remercier tous les auditeurs de radio Tamani. Ceci étant, quand vous parlez d'abord de l'état du lieu, l'agriculture, nous savons que vraiment l'agriculture, notre agriculture est une agriculture qui est intimement liée au régime pluviométrique. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'aménagements, mais nous restons toujours liés vraiment au régime pluviométrique pour dire que nous sommes vraiment sujets aux aléas climatiques. Maintenant, par rapport à l'état du lieu, ce que vous voyez, le secteur développement rural, à partir des résultats de la campagne 2013-2014, contribue à hauteur de 36% vraiment à la formation du PIB. Et le secteur développement rural occupe plus de 805 000 exploitations agricoles. Il contribue
à majorité familiale.
En majorité familiale, plus de 95% familiale, ce qu'on appelle les petites exploitations agricoles. Et il contribue également à hauteur de 115% aux recettes d'exportation. Donc le taux de croissance annuel défini est de 6%. Donc comme vous le savez, le cadre institutionnel de la politique agricole au Mali prend sa source au niveau de la loi d'orientation agricole. Donc cette loi d'orientation agricole balise tous les cadres référentiels de politique agricole au Mali. Donc c'est ainsi que tous les documents aujourd'hui qui sont en exploitation dans le secteur de développement rural ont été élaborés vraiment sur cette source. Donc notamment, vous avez la politique de développement agricole qui a été adoptée cette année. Vous avez également son plan national d'investissement du secteur de développement rural qui est également en cours, qui n'est pas d'abord achevé, mais en remplacement, nous avons un programme qui est le programme national d'investissement prioritaire dans le secteur de développement rural, qui met l'accent sur la promotion des filières agricoles.
Alors nous allons y en venir tout à l'heure dans en plus en profondeur dans ce débat. Alors madame Koulibaly Maïmouna Sidibé du projet Faso Kaba, présentez-nous brièvement ce projet Faso Kaba.
Bon, moi je commence d'abord à remercier
Studio Tamani. Merci.
Et bonsoir aux auditeurs. Et c'est vraiment une bonne initiative. Moi, c'est Madame Koulibaly Maïmouna Sidibé. Je suis la promotrice de Faso Kaba. Faso Kaba, c'est une société privée. Ce n'est pas un projet, c'est une société privée de production et de distribution d'intrants agricoles, précisément les semences améliorées. C'est-à-dire, nous nous occupons de la diffusion des résultats de la recherche, que ce soit la recherche malienne et les partenaires de la recherche malienne. Voilà. Ah. Donc, on est opérationnel officiellement depuis 2005, mais avoir un point de vente avec des multiples points de distribution au niveau village, ça a commencé en 2008. Et ça, avec le partenariat de AGRA, AGRA, Alliance de la Grande Évolution en Afrique, qui n'est autre chose que de mettre dans la main des paysans, les producteurs, les braves producteurs. Et le résultat de la recherche, par exemple, toutes les technologies nouvelles qui aident à booster la productivité des paysans.
Alors, vous êtes une association locale qui est investie dans la promotion des semences. Comment est-ce que vous parvenez à concurrencer le marché international ?
Bon, pour le moment, on cherche à couvrir le marché local et on fournit beaucoup d'efforts et c'est pas facile. Il faut reconnaître que c'est pas facile parce que c'est comme une nouvelle activité au Mali en tant que privé. Avant, le semence c'était dans la main du gouvernement, mais avec la même loi d'orientation que M. Diallo a souligné, et ça a libéralisé un peu. On dit que toute personne morale, physique et puis qui a des ressources peut se lancer dans la distribution de semences. S'il a la capacité morale et puis ressources humaines et puis tout ça. Donc ce n'est pas facile. On cherche à couvrir nationalement. Mais de temps en temps, on a des sollicitations dans la sous-région. Par exemple, on envoie souvent des semences en Guinée-Conakry, au Sénégal.
Alors, vos semences sont issues d'une recherche locale ici au Mali ?
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous diffusons le résultat de la recherche malienne. Par exemple, le nom même de la société Faso Kaba, parce qu'on avait commencé avec les semences de maïs.
Kaba qui veut dire maïs.
Maïs et Faso, ça c'est le pays. Parce que c'est un paysan même qui a donné son nom. Parce que quand on avait commencé, les gens pensaient que nous vendons les OGM.
Alors, est-ce que les semences locales sont appréciées de la population des producteurs?
Oui, parce que les producteurs, il faut ces semences. Parce que ces semences, c'est à des vertus. Hein. Ces semences, c'est amélioré. Ça veut dire que ça résiste à des maladies. Le rendement est élevé. Et les valeurs nutritives sont là. Et vraiment, ça peut aider nos paysans s'ils ont l'accès à ces semences.
Alors, est-ce que vous avez des échos par rapport à ceux qui l'ont déjà expérimenté dans leur champ, le rendement et l'état d'avancement des semis?
Oui, bon, quand nous commençons le travail, le taux d'adoption de ces semences était très bas. Hein. Les docteurs parlaient de 2%, 5%. Maintenant, dans les rapports, on voit que c'est à 20, 18, 22%. Donc, ça veut dire que ça commence, les gens commencent à les adopter. Et il reste beaucoup de travail à faire. Il reste vraiment beaucoup de travail à faire.
Alors, Aboubakar Gakou, vous êtes producteur agricole aujourd'hui. Quel est l'état de vos champs?
Oh, merci beaucoup à tous et un grand merci au CIDIO de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Bon, l'état, pour nous, la campagne, comme vous l'avez dit, campagne agricole, pour nous, la campagne, c'est la récolte en fait. On est en phase de préparation.
Il y a eu des semis, non ?
Voilà, il y a eu des semis, de repiquage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de pluie. Et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Parce qu'en tant que paysan à l'Office du Niger, je parlais surtout de l'Office du Niger parce que c'est de là-bas que je travaille.
Alors si on vous demandait de faire une comparaison entre cette année et l'année dernière au stade, au même stade, est-ce que vous espérez mieux?
Oui, oui, on espère mieux parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie, on espère plus. Parce que là-bas, c'est l'inondation qui nous empêche d'avoir de bonnes récoltes. Et quand il y a eu beaucoup d'eau, s'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, et en plus de ce que nous avons déjà, ça cause énormément de problèmes. Et cette année, je pense que si ça continue à ne pas avoir assez de pluie comme ça, et je pense qu'on aura une bonne campagne agricole.
Mieux que l'année dernière.
Oui. Ouais.
Madame veut ajouter quelque chose?
Ah oui, bon, moi, je suis d'avis contraire. Hein. Nous pensons surtout, nous prions le bon Dieu surtout de nous amener beaucoup de pluie parce que nous sommes dans les cultures sèches. Le maïs,
parce que
le sorgho,
la zone office du Niger est un peu
irriguée. Ils n'ont pas besoin de pluie. Nous, nos paysans ont besoin de pluie. Hein. Nous sommes dans les cultures sèches. Et que les sorgho, les maïs et les mil, ils ont besoin de pluie hein, pour pousser parce qu'on a une seule saison au Mali. On n'a pas beaucoup d'irrigation et donc tout le monde compte sur les pluies. Donc nous souhaitons vraiment, hein, contrairement à ce que...
Et la zone office du Niger aussi a la maîtrise de l'eau.
Oui, en fait, je le dis parce que la pluie, on le veut bien, on l'avait bien, mais il n'y a pas eu d'irrigation, il y a de problèmes au niveau de l'irrigation. Puisque nos canaux, les canaux d'évacuation d'eau sont bouchés, les entretiens ne se font pas. Donc ça fait que quand il y a beaucoup de pluie, et ça crée énormément de problèmes. Voilà. Voilà.
Alors une idée là-dessus, le technicien que vous êtes, Idrissa, je dis Demba Diallo, de la Direction nationale de l'agriculture.
Oui, comme on l'a dit, le malheur des uns
fait le bonheur des autres.
C'est ça, et dans cette zone de l'Office du Niger, effectivement, compte tenu des problèmes, des contraintes liées vraiment au drainage, on n'aime pas assez de pluie. Et les périodes et les campagnes agricoles où la pluviométrie est déficitaire, c'est pendant ces campagnes où on fait de très bonnes récoltes à l'Office du Niger. C'est là où le rendement...
L'Office du Niger exclusivement consacré à l'agriculture,
il représente,
à la culture du riz.
La culture du riz, elle représente environ 45% de la production de riz au Mali, l'Office du Niger.
Est-ce que cela est suffisant?
Bon, par rapport au riz, c'est important. Mais par rapport à l'ensemble, regardez un peu, pour 8 millions de prévisions, 8 millions de tonnes, donc ça ne peut pas représenter grand-chose.
Qu'est-ce qui provient de... La quantité qui provient de l'Office du Niger,
oui.
Peut-on la quantifier?
Bon, ça tourne autour de 700 000 tonnes de riz paddy. Oui, ça tourne autour de 700 000 tonnes de riz paddy.
Donc la zone office du Niger n'est pas très significative, le rendement n'est pas très significatif dans le quota national.
Si, c'est dans cette zone où on a le pic de rendement en matière de riziculture. Oui, c'est un domaine très vaste, c'est un peu l'espoir du Mali en matière de culture du riz. Voilà. Mais au regard de l'ensemble des céréales, là il faut mettre un peu de réserve. Oui, nous avons besoin de la pluie au sud. Dans la zone soudanienne, nous avons besoin de la pluie sur la bande sahélienne. Vous voyez, dans la zone des Bankas, ça c'est des bassins, des grands bassins de production de mil. Vous voyez, le mil sorgho, tous les mil sorgho viennent de ces zones.
Et sans pluie,
ça ne va pas.
Je vous propose d'observer une courte pause avant de reprendre ce débat et de poursuivre avec sa deuxième partie.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Damana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issa Ber de Niafunké, 96.3 MHz.
Vous nous êtes fidèles, cela nous honore. Cette fidélité continue d'ailleurs sur notre site web www.studiotamani.org et notre page Facebook Studio Tamani. Vous pouvez réagir à tout ce qui se passe dans ce studio en longueur de journée. Cette deuxième partie est consacrée à la campagne agricole 2014. Enfin, ce débat est consacré à la campagne agricole 2014. Nous tentons de faire un bilan à mi-parcours de la campagne agricole. Donc, nous avons comme invité Aboubacar Gakou, producteur agricole, Madame Koulibaly Maïmouna Sidibé de l'association Faso Kaba, et nous avons également Demba Diallo de la Direction nationale de l'agriculture. La campagne agricole 2014, bilan à mi-parcours. Les intrants sont-ils disponibles partout au Mali, Monsieur Diallo, Demba Diallo?
Oui, affirmatif. Les intrants sont disponibles dans toutes les zones de production
au même prix
du Mali, au même prix. Et cela grâce d'abord aux efforts de l'État et aussi à la synergie d'action entre tous les acteurs, dont vous avez certains parmi vous ici, tels que les Faso Kaba, tels que les autres compagnies de distribution des engrais. Il faudrait vraiment remercier tout le monde, parce que vraiment, que ce soit à Sigasso, que ce soit à Kaï, à Mopti ou à Koulikoro, vraiment, nous avons de l'engrais aujourd'hui sur le terrain. Et les quantités d'engrais cette année, vraiment, sont largement supérieures à celles de l'année de la campagne passée. Cela est dû vraiment à la baisse du prix de l'engrais. Imaginez un peu, l'urée était à 20 000 la campagne dernière. Cette année, il est à 15 000. Et il était cédé à 12 500 l'année passée. Cette année, il est cédé à 11 000 francs. Donc cette année, nous avons beaucoup plus d'engrais vraiment sur le terrain que l'année dernière. Voilà. Donc vraiment, l'engrais est disponible sur le terrain.
Alors, quel est le poids, par exemple, d'une association comme celle que Madame représente ici, Faso Kaba, dans la chaîne de production au Mali?
Un rôle vraiment très important, parce que vous savez, c'est grâce à ces fournisseurs qu'on a l'engrais d'abord de l'extérieur au Mali. Voyez, c'est grâce aux distributeurs maintenant que l'engrais passe de Bamako jusqu'aux différents sites d'approvisionnement des producteurs. Donc ce rôle est vraiment extrêmement important. Lorsqu'ils ne sont pas sur la chaîne, ça va poser énormément de problèmes, parce que les organisations et les coopératives de producteurs seraient obligées de venir jusqu'à Bamako ou à la capitale régionale pour s'approvisionner. Ce qui est vraiment très pénible.
Voilà. Alors, malgré la campagne de sensibilisation sur la subvention des intrants au Mali, il y a certaines personnes qui passent par les mailles du filet. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire, nous schématiser un peu ce problème?
Voilà, moi, dans l'engrais, je ne peux pas dire beaucoup, parce que moi, j'ai fait précisément les semences. Oui, mais moi... Les semences, comme il a eu à dire, vous l'avez vu, il parle seulement que l'engrais. Et il ne parle pas de semences. Moi, je
donc
pense que l'engrais...
Pour
voilà. Donc, il oublie ce point-là. Chaque fois qu'il y a quelque chose sur l'agriculture, les gens, c'est l'engrais. Ils
alors que sans semences, il n'y a pas d'agriculture.
Il faut mettre l'engrais sur une bonne semence pour bien récolter.
Tout à fait, madame.
Donc, moi, je les encourage. L'État a beaucoup fait. Moi, je vais aller proposer et de faire des subventions en kit, sous forme de kit. Par exemple, semences, engrais, les autres intrants comme les herbicides. C'est comme ça qu'on va avoir l'impact de l'effort de l'État. Moi, je les encourage d'aller dans ce sens, parce que je suis venu un peu partout, grâce à mon partenaire Agra. À Malawi, j'ai vu leurs subventions. Ça marche très bien. Des importations, ils sont exportateurs maintenant. Ils ont beaucoup d'excédents, parce qu'eux, ils font par kit. Tu fais tes besoins de engrais, obligatoirement, tu vas prendre ces besoins aussi en semences. C'est donné sous forme de... C'est ce que je veux. J'ai dit ça partout, que j'ai l'occasion de parler, et j'ai dit ça. J'encourage notre État à aller dans ce sens, subventionner le kit au lieu de subventionner l'engrais seulement.
Alors, est-ce que cette subvention de l'État sur les kits, comme vous le dites, au Mali, est plus significative qu'ailleurs?
Bon, si ils arrivent à faire ça, parce qu'ils sont en train de le faire. Actuellement, il y a une variété de maïs qui sont en train de subventionner en même temps que les engrais. Ça, c'est le maïs hybride. Bon, notre recherche, ils sont un peu en retard par rapport à ces hybrides-là, donc c'est l'hybride importé.
Alors, est-ce que c'est plus abordable au Mali qu'ailleurs?
Oui, si on les met en kit, parce que tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Moi, je pense qu'au lieu de faire la subvention sur l'engrais importé seulement, sur la semence importée, moi, je préfère surtout de subventionner la production locale. Tous les maillons vont participer. Et ça va être un développement élargi. Mmh. Et que ça soit un poignet de personnes qui bénéficient de ça. Parce que toujours, les semences importées là, qui sont en train de subventionner, c'est toujours très cher à la portée de paysans, vrais paysans. Si faut dire parce que le kilo, ça fait 3000 francs.
Donc vous estimez qu'il faille mettre plus d'accent sur la production locale. Ok. Oui. Alors, M. Gakou, quel est votre avis par rapport à la subvention accordée par l'État sur ces différents produits semences et intrants?
Bon, en fait, chez nous, on n'a pas assez de problèmes par rapport à la semence.
À la zone au fil du Niger.
Voilà. Mais par contre, l'engrais, le problème d'engrais n'est pas du tout résolu jusqu'à présent, malgré tout ce qu'on dit et tout ce que la voix officielle entend de nous faire savoir.
Qu'est-ce qui ne va pas?
Ça ne va pas parce que la somme énoncée par mon
confrère,
11 000 francs, ce n'est pas de ce prix-là que nous, on a l'engrais.
Vous l'avez à combien?
On l'a à 15 000 francs. Ce n'est pas tous les paysans qui... On donne le prix qui a été annoncé pour la subvention. C'est conditionné à une récépissé qui montre que tu as le champ. Je vous dirais aujourd'hui que 40 ou 30% de paysans de l'office n'ont pas de papier parce qu'ils louent où il y a des ors casiers. Donc ceux qui détiennent ces ors casiers-là n'ont pas du tout le récépissé. Ils ne peuvent pas avoir
accès
à l'engrais à ce prix. Alors, soit ils l'achètent à 20 000 francs ou 15 000 francs.
Qu'est-ce que la Direction nationale de l'agriculture a comme réponse face à ce problème?
Bon, M. Sylvie, vous-même, vous l'avez évoqué tantôt, parce que ce qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de sécurisation de la subvention. Et regardez, quand l'État fournit un effort d'environ 35 milliards de francs CFA par an, voyez, ça mérite quand même d'être sécurisé. Ça mérite que vraiment les objectifs soient visés, soient atteints. Oui, mais si l'engrais est détourné pour d'autres fins, vraiment, ça, c'est pas souhaitable.
Mais donc, à partir du moment, Monsieur Diallo, à partir du moment où c'est subventionné, est-ce qu'on peut pas en faire comme un produit pétrolier, par exemple, où on peut se procurer la matière au même prix?
Bon, les réflexions sont en cours. Les réflexions sont en cours pour explorer vraiment toutes les pistes, dont celle évoquée par Madame tantôt. Mais pour le moment, il va falloir aller vraiment avec beaucoup de prudence parce que quoi qu'on fasse...
Quelle est la dérive que vous craignez?
Non, c'est que tout récemment, vous avez appris quand même qu'on a fait des saisies. Des saisies d'engrais jusqu'à concurrence 146 sacs d'engrais subventionnés qui devraient sortir, qu'on a arrêté. Ça, c'est ce qu'on a pu arrêter. Dieu seul sait combien sont déjà sortis. On ne le sait pas.
Sorti du pays.
On ne le sait pas.
Donc l'engrais subventionné est racheté sur le marché et évacué ailleurs.
Voilà. Et d'autres également qui ne sont pas utilisées sur les céréales, alors qu'elles sont destinées sur les céréales. Elles sont destinées aux céréales, mais il y a des quantités qui ne sont pas utilisées sur les céréales. Vous voyez que les rendements, à présent, on a des problèmes à faire atteindre les résultats escomptés par rapport au rendement. Mais parce que tout l'engrais ne part pas au champ. Voilà.
Monsieur Gakou a quelque chose à dire.
Ça va où? Qui détourne pour d'autres fins? J'aimerais savoir.
Et qu'est-ce que vous souhaitez, Monsieur Gakou? Vous êtes exploitant agricole. Qu'est-ce que vous souhaitez comme réponse à cette crainte que les autorités ont aujourd'hui à freiner ce trafic duré?
Bon, nous, on ne sait pas du tout. En tant que paysan, on ne sait pas où va l'engrais en dehors de nos champs.
Et pourtant, si vous êtes indexé.
Oui, si ça va ailleurs, c'est pas les paysans qui les amènent ailleurs. C'est
eux. C'est peut-être avec la complicité des paysans.
Non, pas du tout. Les paysans n'est pas un commerçant. Tout ce qu'il veut, c'est d'avoir un engrais pour son champ.
Est-ce qu'il est difficile pour vous de vous procurer de l'engrais subventionné avec ceux qui ont les récépissés, par exemple?
Non, pas du tout. Pas du tout. Quand tu as le récépissé, mais tout ce que je veux dire, c'est...
Est-ce que vous pouvez vous fournir à travers ces gens-là?
Ah non.
C'est pas possible.
Non, pas possible parce que le champ a un papier qui te permet d'avoir si tu as un hectare ou deux hectares qui est sur ton, ta facture. Voilà. Donc toi, tu l'as.
Madame veut ajouter quelque chose.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Et voilà. Parce que c'est une caution qui est délivrée et par les agents de l'agriculture. Ça veut dire que vous avez un hectare, c'est la dose exacte pour l'hectare qu'on vous donne. Oui. Donc, c'est pas facile de prendre ça et puis donner à une autre. Sauf si tu n'as pas le champ ou bien tu ne cultives pas. Sinon, ce ne serait pas possible.
Le champ, il n'y a pas beaucoup de... Excuse-moi, il n'y a pas beaucoup de... Beaucoup sont là et qui n'ont pas, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de récépissé pour les champs. Les orcasies, on en a partout dans les zones.
Est-ce que vous avez tenté de résoudre ce problème?
Le problème, je ne sais pas.
Au niveau des responsables de l'Office du Niger?
Entre les paysans de l'Office et les responsables, c'est, moi je vous dis, ça va nous amener sur un autre débat. Et...
Alors, à la Direction nationale de l'agriculture, a-t-on une solution à ce problème, M. Diallo?
Et lequel problème d'abord?
Sur le fait, l'inaccessibilité d'une partie des paysans à ce produit subventionné.
Non, ça c'est un cas spécifique à l'Office du Niger. C'est une réglementation intérieure, l'Office du Niger, à laquelle vraiment chaque producteur doit se plier. Voilà, ça c'est un cas spécifique de l'Office du Niger. Sinon ailleurs, nous avons même mis des numéros de téléphone vert, pour que les gens puissent appeler en cas de problème par rapport à l'acquisition de l'engrais subventionné. Voyez, si à l'Office du Niger, il y a des critères pour pouvoir avoir ça, ça c'est purement interne. Mais ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans les zones direction régionale de l'agriculture, il n'y en a pas. Dans les zones CMDT, je le dis bien, il n'y en a pas.
Ouais. Mais il c'est pas destiné à certaines spéculations, hein, parce qu'on a partenaires qui font le sorgho et les mills disent qu'ils n'arrivent pas à payer les semences subventionnées.
Non, monsieur Sidibé, si vous me permettez.
Allez-y, monsieur Diallo.
Si vous me permettez, effectivement, ce n'est pas toutes les cultures qui sont visées par la subvention de l'engrais. Vous voyez, c'est les cultures porteuses. Les cultures porteuses.
Qu'est-ce qu'une culture porteuse?
Voilà, c'est les cultures à haut rendement. Quand vous prenez le maïs, vous pouvez avoir 3 tonnes, vous pouvez avoir 4 tonnes, vous pouvez même dépasser 4 tonnes. Le riz, il en est de même. Certains systèmes de riz, par exemple, ne sont pas subventionnés. Le riz submersion libre, il n'est pas subventionné. Voyez. Vous avez le riz bafan également qui n'est pas subventionné. Mais vous avez le riz maîtrise totale à l'Office du Niger. Et dans tous les périmètres irrigués, l'engrais est subventionné. Voyez. Le maïs, dans sa zone de production potentielle, est subventionné. Mais quand vous mettez le maïs dans le Sahel, ce n'est pas sa zone de production. Donc l'engrais n'est pas subventionné là-bas parce qu'il ne peut pas vraiment fournir le rendement escompté. Mais par contre, la bande sahélienne, ça c'est les céréales sèches. Vous voyez, le mil sorgho. Donc ce sont ces producteurs même qui ont réclamé à ce qu'eux aussi puissent bénéficier. Parce qu'ils ne font pas de riz, ils ne font pas de maïs. Donc ils font le mil sorgho. On a trouvé une solution, c'était la microdose. Au lieu de 100 kg à l'hectare, on va à 35 kg à l'hectare.
Oui. Alors, un des problèmes majeurs aussi du manque de rendement agricole au Mali, c'est la mécanisation. Est-ce que les paysans ont un accès assez favorable aux équipements agricoles, M. Gakou, vous qui êtes exploitant?
À l'Office du Niger, c'est pas du tout tel qu'on le dit partout, hein, parce qu'aujourd'hui il y a les
donc rien ne vous sourit à l'Office du Niger.
Non, mais à l'Office du Niger, c'est incroyable. Moi, c'est ce qui est le problème quand il a dit que ça existe à l'Office, mais ailleurs. Et pourquoi on ne mettrait pas les paysans de l'Office dans le même contexte que les autres paysans?
Mais par exemple, l'eau, vous l'avez en abondance, les autres paysans n'ont pas l'eau.
Vous savez combien ça nous coûte cette eau? On paye l'eau. Hein? Tu vois, on a des champs nous ont été attribués. Il y a des familles qui détiennent leurs champs depuis plus de 40 ans. Ce sont les mêmes superficies qu'ils occupent jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, les familles sont beaucoup plus nombreuses.
Alors, nous allons poursuivre ce débat sur la mécanisation de l'agriculture juste après une courte pause.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Rendez-nous visite également sur notre site web www.studiotamani.org et sur notre page Facebook Studio Tamani pour réagir par exemple à ce débat. Nous retrouvons donc ce grand dialogue qui est axé aujourd'hui sur l'agriculture. Nous faisons un bilan à mi-parcours de la campagne agricole 2014 et cette troisième partie est consacrée aux perspectives agricoles 2014. Nos invités, Aboubacar Gakou, producteur agricole, Madame Koulibaly Maïmouna Sidibé de l'association Face au Kaba, Demba Diallo de la Direction nationale de l'agriculture. Les prévisions de production de cette année sont-elles envisageables et en bonne voie, Monsieur Diallo, de la Direction nationale de l'agriculture?
Bon, ce serait un peu tôt de pouvoir faire vraiment une telle appréciation, mais ce qui est sûr, aujourd'hui, nous sommes... Nos réalisations dépassent les 70% dans l'ensemble. Et quand vous prenez de façon singulière, par exemple le coton, nous sommes largement à 97% de réalisation. Vous voyez, c'est largement supérieur à la réalisation de l'année passée. Vous voyez.
Alors, est-ce que les prévisions pluviométriques, par exemple, cette année, ont impacté sur cette production?
Tout à fait, tout à fait.
En bien ou en mal?
Pas d'abord sur la production, mais... sur vraiment
l'installation,
voilà, sur l'installation des cultures. Parce que, je vous l'avais dit, il y a deux grandes zones agroclimatiques, le Sahel et puis le Sud. Vous voyez, la partie Sud, les gens ont commencé à semer très tôt. Vous voyez. Mais au cours de cette époque de semis, il y a eu des ruptures. Vous voyez, il y a eu des ruptures qui varient d'une semaine à deux semaines selon les localités. Vous voyez. Tandis que le Sahel, c'est à partir de juillet, mi-juillet, qu'ils ont reçu la pluie de Sahel. C'est effectivement, c'est pas habituel. Souvent, c'est le mois de juin, ils reçoivent les premières pluies. Mais cette année, c'est pratiquement mi-juillet qu'ils ont reçu les pluies. Donc, ils ont commencé les réalisations. Tout ce qu'ils réalisaient avant le 1er août, ça, c'est des semis à bonne date. Mais ce qui sera réalisé après le 1er août, c'est-à-dire pendant le mois d'août, c'est des semis vraiment qui sont hors bonne date. Oui. Donc avec ceci, il est difficile de pouvoir compter sur les résultats.
D'accord.
Voilà.
Alors, Madame Koulibaly Maïmouna Sidibé de l'association Face au Kaba, est-ce que vous pensez qu'il faille aujourd'hui mettre plus d'accent sur les semences qui n'ont pas besoin de beaucoup de pluie plutôt qu'autre chose au Mali?
Oui, moi je supporte ça vraiment. Je veux qu'on mette l'accent sur l'utilisation des semences améliorées. Parce que la recherche travaille. Hein. Ils ont trouvé des variétés.
Et ça marche.
Ça marche. Ils ont trouvé des variétés qui font 70 jours, 75 jours en maïs. C'est pourquoi je parle de kit, vraiment. Si on n'introduit pas ces choses-là, les paysans ne sont pas au courant. Nous, le secteur privé, on est émergent. On n'a pas les moyens de les faire connaître beaucoup. Mais dans les initiatives du gouvernement, comme baisser le prix de l'engrais, si on associe les semences améliorées, quelles que soient les semences. Parce qu'il faut reconnaître que la population, c'est le sorgho et le mil qui est beaucoup consommé. Les riz, c'est surtout l'exportation, c'est consommé, mais c'est surtout l'exportation. Donc moi, je crois que nos semences qu'on a là, ça peut faire une tonne, ça peut faire deux tonnes. Des semences de sorgho, ce n'est pas des hybrides, hein, des OPV, mais c'est avec un grand rendement. Moi, je pense qu'il faut les associer. Avec ça, on peut vraiment avoir un impact.
Alors, M. Gakou,
oui.
Vous venez d'entendre tout à l'heure les estimations de M. Diallo sur la pluie. Madame vient de faire la promotion des semences améliorées. Où est-ce que vous vous situez dans ces deux explications?
En fait, je...
Vous adhérez plutôt à l'idée de...
Oui.
M. Diallo?
Voilà, je dirais surtout, je ne me souviens plus de... C'était sur quoi il a parlé?
Oui, c'était sur l'eau, la prévision pluviométrique.
Maintenant, ça va. On peut bien espérer. On peut espérer sur une bonne récolte. En tant que ça continue comme ça, comme j'ai eu à dire au début de débat, et en tant que ça continue à être comme ça, nous... On espère vraiment sur une bonne campagne, en fait.
Alors, est-ce que vous avez des semences à l'Office du Niger qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau?
Pas vraiment. On est en train de introduire un peu le Nerica. C'était une expérience. Une première expérience n'a pas beaucoup marché, mais jusqu'à présent, les services semenciers tels que OPS, dont madame connaît très bien, sont en train d'expérimenter encore d'autres céréales, semences qui peuvent être utiles. Utilisé sans beaucoup d'eau.
Alors nous revenons un tout petit peu en arrière par rapport à cette mécanisation de l'agriculture aujourd'hui. Quels sont les efforts de l'État malien par rapport à la mécanisation de l'agriculture et à l'accessibilité des populations, des paysans à cet outil, Monsieur Diallo?
Voilà, merci Monsieur Sidibé. Là également, il faut reconnaître que l'État a fourni beaucoup d'efforts. Et de la campagne 2008-2009, c'était la campagne où il y a eu vraiment l'opération Initiativerie. Et en fin de campagne, il y a eu des minuriseries, il y a eu des décortiqueuses, il y a eu des batteuses qui ont été octroyées aux producteurs dans toutes les régions. Vous voyez, dans toutes les régions.
À quel prix?
Je ne peux pas donner le prix actuellement, mais qui ont été octroyées aux producteurs à crédit. C'est quand même à crédit pour qu'ils puissent rembourser année par année. Oui, année par année. Et la même année, l'engrais avait été donné à crédit. Oui. Donc, normalement, si les producteurs remboursaient régulièrement, ça devrait servir vraiment comme un fonds de revolving pour pouvoir doter encore d'autres producteurs d'équipements. Donc, il y a eu deux années de suite que l'État paye vraiment les équipements que je viens de citer et les met à la disposition des producteurs. Oui, il y a eu beaucoup de décortiqueuses, beaucoup de motopompes, beaucoup de motoculteurs qui ont été vraiment octroyés aux producteurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, le point de remboursement n'est pas du tout satisfaisant. Il n'est pas du tout satisfaisant. Alors, c'est là où on a le problème. En plus de ça, vous avez l'usine de montage de tracteurs. Oui, c'est là également, c'est un effort que l'État a fait. Et à cela également, l'État a quand même pris une part. Oui. Dans la cession des tracteurs. Oui. Là aussi, les premières dotations, vraiment, certains producteurs, on n'arrive même pas à les retrouver. Oui.
Alors, madame,
Allez-y. En fait, l'État fait des efforts, mais ces efforts, vraiment, ne sont pas bien suivis par les producteurs. Si les producteurs pouvaient aussi fournir des efforts pour qu'on puisse encourager l'État à poursuivre vraiment ces efforts-là, ça allait être vraiment une bonne chose.
Alors, madame Skoulibaly Maïmouna Sidibé, vous êtes de l'association Face au Kaba. On demande à ce que les jeunes s'investissent de plus en plus dans la culture, l'agriculture. Aujourd'hui, si un de vos enfants vous demandait comment faire quand il y a cette barrière, ces difficultés à pouvoir mécaniser ou bien favoriser ces travailleurs en termes de mécanisation, d'équipement. Qu'est-ce que vous leur répondez par rapport à cette difficulté?
En fait, il y a la disponibilité. En fait, il y a des faveurs qui sont accordées aux jeunes et aux femmes, même si moi, je n'ai pas bénéficié pour le moment. Mais
ça viendra.
Et sinon, on encourage les jeunes à aller. J'ai vu l'autre jour un documentaire sur un jeune qui est parti s'installer au Niger, à l'Office du Niger, avec la pêche. Il a reçu beaucoup d'appui, il est équipé, il a les intrants subventionnés, contrairement à M. Gabou. Mais... Donc moi, je crois que les enfants, là, c'est à partir de l'éducation, de leur formation même. Il faut vraiment avoir des filières, et c'est ça qui fait. Parce que les formations telles qu'elles sont nos écoles, là, c'est très difficile. Quelqu'un qui a pris la comptabilité, qu'on l'envoie au champ, il ne va pas accepter.
Je rappelle que monsieur est cinéaste. Voilà. Il se retrouve dans un champ.
Bon, il a été courageux. Tout le monde n'a pas ça. Et donc, moi, je pense que ça doit commencer. On doit faire beaucoup d'écoles professionnelles et des petits diplômes. On n'a pas besoin d'avoir des doctorats pour être un bon paysan. Peut-être ouvrir beaucoup d'écoles et puis subventionner encore la mécanisation. C'est toujours cher, hein. Même avec l'usine de tracteurs, toujours les choses sont chères.
Même en Europe, hein, on s'en
voilà,
à beaucoup de milliers
voilà,
d'euros.
Voilà, c'est cher. Mais il y a l'APES qui est là, qui fait beaucoup de choses. Il y a l'ANP qui fait beaucoup de choses. Et moi, je vois beaucoup d'émissions à la télé. Ils aident les jeunes à vraiment faire de l'entrepreneuriat. Et on ne doit pas avoir peur. Et c'est le courage, prendre le courage à demain.
Monsieur Gakou, vous venez d'entendre la voix officielle, la Direction nationale de l'agriculture. Vous venez d'entendre madame qui a fait un long plaidoyer pour les jeunes et pour sa propre personne. Aujourd'hui, Monsieur Gakou, quelle est la vision d'un jeune comme vous en termes de facilité et d'accès aux équipements?
Aux équipements, ce n'est pas aussi facile. Ça va vous surprendre tout ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça, c'est la réalité.
C'est encore difficile.
Telle qu'on vit, en fait. En fait, je reconnais le propos de monsieur. Malgré les insuffisances, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le cadre de l'initiative. Je vais juste à donner.
Et beaucoup de manquements de la part des paysans.
Une idée. Il y a eu à peu près 70 motoculteurs en zone office du Niger, répartis entre 225 villages.
70
voilà.
Entre 220.
Alors que chaque famille paysanne a quand même besoin. Je reconnais qu'il y a eu des efforts, mais juste montrer que c'est insuffisant. Pour répondre à la question de, pas une question, mais juste suggérer quelque chose. Pour nous, les paysans, c'est pas les jeunes diplômés à l'école. Puisqu'il y a eu des expériences en Béouani, on a attribué 5 hectares ou 5 millions à 50 jeunes en 2004, je pense. Aujourd'hui, ces jeunes-là ne sont plus là. Aucun d'entre eux ne sont là-bas.
Voilà.
Ils ont fui. Mm-hmm. Voilà. Moi, je trouve que les paysans, ceux qui
pourquoi vivent, ils sont partis?
Je ne sais pas. C'est pas eux. Ce métier, pour le faire, il faut l'aimer. Partout au monde, le métier d'agriculteur, moi, je ne pense pas que c'est bien apprécié. Donc, nous qui sommes déjà dedans, fils des paysans qui ont envie de continuer dans ce métier, je pense qu'au lieu d'amener, de former les jeunes dans les écoles, pourquoi ne pas mettre l'accent sur ces enfants qui sont restés, qui veulent vivre dans l'agriculture, en les accompagnant à vivre dans ce métier.
Alors, Gakou, malgré ces difficultés, est-ce que vous vous en sortez?
Les paysans à l'office du Niger?
Oui, vous par exemple.
Moi personnellement, parce que j'ai un pied.
Mais ce que vous faites déjà, est-ce que cela vous rapporte?
Je fais du cinéma, moi je suis cinéaste, réalisateur et je suis paysan.
Voilà. Ce travail de paysan, est-ce que cela vous rapporte?
Pas du tout.
Pourquoi vous êtes dedans alors?
Non, parce que ce que je gagne dans le cinéma, imagine-moi mon champ, je le finance avec ce que je gagne dans mon cinéma. Et je sais
donc
combien
vous produisez
de paysans.
À perte?
Non, ça me permet le petit temps de récolte, ça nous permet de vivre dans le. La récolte nous permet de vivre dans trois ou deux mois, de bonheur, en fait.
Oui, je peux ajouter, M. Sirivé.
Allez-y.
Voilà, c'est que lui, il est en train de dire là. Il faut un background. Il faut vraiment être initié. Pourquoi les jeunes ont fui? Parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais jusqu'à l'école, quand tu apprends ça, tu fais 2 ans, 3 ans de formation. Tu es habitué, tu vas rester.
C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut de la passion pour ce métier.
Aimer ce métier pour le faire.
Malheureusement,
les 45 minutes qui nous est accordées sont finies. Nous sommes à la fin donc de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, chers auditeurs. Ce grand dialogue réfléchissait sur le bilan à mi-chemin de la campagne agricole 2014 au Mali. Le point débattu dans cette émission était l'état des lieux de l'agriculture et des projets pour l'accompagner. La campagne agricole 2014 nous en nous avons fait un bilan à mi-parcours également. Nous avons aussi débattu des perspectives 2014 agricoles. Nos invités, Aboubacar Gakou, producteur agricole, Madame Koulibaly Maïmouna Sidibé du projet Faso Kaba et de l'association Faso Kaba, Demba Diallo de la Direction nationale de l'agriculture, chef du bureau statistique et suivi évaluation. Merci messieurs pour votre disponibilité, merci madame pour la présence. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique et Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou Dmoundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.